Bonjour frères et sœurs. Ben oui, on est dans le thème des ministères de l'Église. On voit les différents départements, les rencontres de l'Église, services des cultes, évangélisation. C'est un grand privilège de servir dans l'Église d'une manière ou d'une autre, en tant que responsable ou en tant qu'aide. Ça peut être pour des besoins ponctuels ou réguliers. Donc c'est un grand privilège de servir, c'est bon de servir. Mais il y a un défi qui est associé à cela aussi. C'est quand on sert bien, on peut tout à coup... se trouver bon aussi. Il y a un danger qui est là et qui nous guette, et on doit toujours être sur nos gardes parce que la tendance naturelle de l'homme, c'est de s'élever et de se comparer aux autres, d'entrer en compétition, en rivalité avec les autres. Bon, c'est peut-être pas votre cas, vous êtes très humble, mais le danger est là. On peut même tomber facilement dans le danger de comparer notre Église avec une autre Église. Une compétition inter-Église. C'est malsain, hein? On est tous dans une même... œuvre dans un même évangile. Bien, l'évangile de Jean que nous étudions aborde ce thème-là. On va l'étudier aujourd'hui. Il compare le ministère de l'Ancienne Alliance avec tous les prophètes de l'Ancien Testament. Il le compare, ce qui est le judaïsme à l'époque de Jésus, il le compare au ministère de Jésus et de la Nouvelle Alliance. Mais il en profite pour traiter justement du sujet de la compétition, de la rivalité. Jésus est montré comme supérieur au judaïsme à plusieurs reprises dans l'Évangile de Jean. Et il est l'accomplissement de tout ce que le judaïsme représentait, en fait. Tout ce qui est de bon dans l'Ancien Testament, mais en Jésus, tout à coup, ça devient la forme ultime. Il est vraiment l'accomplissement de tout ce qu'on voit. Et on a vu déjà dans trois événements, dans l'Évangile de Jean, trois aspects de cela, trois événements consécutifs. D'abord, aux noces de Cana, où Jésus a utilisé les jarres d'eau qui servaient à la purification des mains et du corps sous l'Ancienne Alliance, donc des rites de purification. Jésus a transformé l'eau en vin et donné le vin nouveau qui va devenir même un des symboles forts de la Nouvelle Alliance. Puis, du même coup, il rendait obsolètes les jarres. Donc, il montrait qu'il est ce qu'il apporte est supérieur. Au temple aussi, plus tard, Jésus est allé au temple, il a montré que ce temple-là qui était grandiose et qui était le lieu ultime là, de rencontre entre le peuple et Dieu, bien que lui, il est plus grand que ça parce qu'il est le nouveau temple. Même, il disait, détruisez ce temple et je vais le relever en trois jours. Mais il parlait de lui-même, le nouveau temple qui est le nouveau point de rencontre entre Dieu et l'humanité, qui allait être détruit, c'est-à-dire qu'il allait mourir, mais il allait ressusciter. Donc, l'ancien temple de Pierre préfigurait ce qui est meilleur, le temple qui est Jésus. Ensuite, il a rencontré Nicodème, puis il a déclaré qu'il est celui qui accomplit la prophétie de régénération, de renaître d'eau et d'esprit qu'on lit dans les prophètes de l'Ancien Testament. C'est en Jésus que ça se fait. Jésus dit qu'il est celui qui apporte la nouvelle naissance. Donc, la promesse est devenue réalité en Jésus. Donc, on n'a plus besoin de retourner aux promesses. Maintenant, on va à Jésus qui est l'accomplissement. Aujourd'hui, on voit un quatrième événement de suite qui démontre la supériorité du ministère de Jésus, et c'est le témoignage de Jean-Baptiste. On a déjà entendu deux témoignages aujourd'hui. Il y en a un troisième, c'est celui de Jean-Baptiste. Et il va faire une comparaison. On va lire en deux parties. C'est dans Jean chapitre 3, à partir du verset 22. D'abord, les versets 22 à 30, où il y a une comparaison qui est faite entre le ministère de Jean-Baptiste et le ministère de Jésus. Et ensuite, dans la deuxième partie, à partir du verset 31, Jésus est comparé à tous les autres. Donc, lisons d'abord Jean 3, 22 à 30. L'Évangile de Jean, l'Évangile de Jésus selon Jean, chapitre 3, verset 22. Après cela, Jésus se rendit avec ses disciples dans la terre de Judée. Et là, il séjournait avec eux et baptisait. Jean aussi baptisait à Énon, près de Salim, parce qu'il y avait beaucoup de points d'eau, et on s'y rendait pour être baptisé, car Jean n'avait pas encore été jeté en prison. Or, il se leva de la part des disciples de Jean une discussion avec un juif à propos de la purification. Et ils allèrent auprès de Jean et lui dirent, « Rabbi, celui qui était avec toi au-delà du Jourdain et à qui tu as rendu témoignage, mais voici qu'il baptise, et que tous vont à lui. » Jean répondit, « Un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Vous-même m'êtes témoin que j'ai dit, Moi, je ne suis pas le Christ, mais j'ai été envoyé devant lui. Et celui qui a l'épouse, oui, c'est ça. Celui qui a l'épouse, c'est l'époux. Mais l'ami de l'époux qui se tient là et qui l'entend éprouve une grande joie à cause de la voix de l'époux. Et cette joie, aussi cette joie qui est la mienne, est complète. Il faut qu'il croisse et que je diminue. Donc, dans le récit, on voit ici que Jésus quitte Jérusalem. Il était au temple et c'est là qu'il a, dans le coin du temple où il a rencontré Nicodème. Il quitte Jérusalem pour aller dans la Judée. Jérusalem était déjà dans la Judée. Mais ce qu'on veut dire par là, c'est que Jésus a quitté la capitale pour aller dans la banlieue, dans la campagne, dans les villages, les villes. Donc, l'auteur veut indiquer que Jésus a commencé sa mission d'évangélisation. Et il enseigne au peuple, il les exhorte à se repentir, un peu comme Jean-Baptiste. Et à sa prédication, des gens se repentent et sont baptisés. Le chapitre suivant, on va lire au verset 2 que ce n'est pas Jésus qui baptisait lui-même. Jésus ne baptisait pas par lui-même, mais c'était ses disciples. Il devenait comme des disciples de Jésus, il le suivait. Ce n'est pas Jésus lui-même qui baptisait dans l'eau, parce que, comme Jean l'a témoigné, lorsque Jésus va éventuellement baptiser, ce sera d'esprit. C'est le baptême du Saint-Esprit qui ne fait pas seulement que purifier des souillures du corps, qui n'est pas qu'un symbole de purification, mais qui est une purification réelle des péchés, purification définitive et éternelle. Cette purification-là est faite par nul autre que Jésus lui-même. Dans l'Esprit-Saint. Donc, Jésus est dans la contrée là, de Judée, puis il baptise, bien, ses disciples baptisent, et Jean-Baptiste continue aussi de baptiser. Il était dans la région de Salim, et le texte dit « parce qu'il y avait beaucoup de points d'eau ». Donc, en parenthèse, c'est l'un des arguments pour dire que le baptême dans le Nouveau Testament est l'immersion. Jean-Baptiste allait justement dans cette région-là parce qu'il y avait des ruisseaux, des rivières, des lacs, des étangs, des points d'eau où il pouvait baptiser. Si c'était par l'aspersion, il aurait pu être n'importe où, prendre l'eau d'un puits ou d'une bouteille. Donc, il allait près des points d'eau et les gens venaient à lui pour être immergés. Donc, on voit d'entrée de jeu qu'il y avait deux mouvements en parallèle dans le peuple. Donc, ça devait en parler beaucoup là, en Israël. Il y avait le mouvement du ministère de Jésus, le ministère de Jean-Baptiste. Et le texte dit que ça se passait avant que Jean-Baptiste soit jeté en prison. Et c'est conforme à ce que les trois autres évangiles nous disent, Matthieu, Marc et Luc, parce que Jésus a commencé son ministère en Galilée après que Jean-Baptiste a été arrêté et mis en prison. Donc, ça se passe avant le ministère qui est décrit dans les trois autres évangiles. Mais Jésus était déjà en train d'annoncer l'Évangile. Et là, la comparaison entre les deux ministères là, de Jésus et de Jean-Baptiste est comme inévitable. Les gens allaient se poser la question, qu'est-ce qui se passe là? Et ça a commencé dans le contexte d'une discussion que les disciples de Jean-Baptiste avaient avec un juif. Donc, les disciples de Jean-Baptiste eux-mêmes étaient juifs, mais là, on veut dire un juif qui défendait la cause du judaïsme, et il était en discussion avec eux. Puis le terme, c'est vraiment d'être en débat, en dispute. Ils argumentaient pour savoir qui avait raison. Donc, probablement que le juif, il s'obstinait là, avec les disciples de Jean-Baptiste pour dire « Ce que vous faites là, c'est pas conforme à la loi. On ne trouve pas ça, le baptême, là, d'être plongé dans l'eau, là, dans la loi. » Puis il devait questionner la légitimité, la validité de ce baptême-là. Peut-être que les disciples de Jean-Baptiste rétorquaient que c'était nouveau ce qui se passait là. Ça avait été commandé directement par Dieu à Jean-Baptiste et que ce n'était pas une simple purification, un rituel à répéter. C'était un baptême qui signifiait une repentance radicale. Les gens reconnaissaient que toute leur vie avant, ils la vivaient dans le péché, là, même s'ils étaient sous la loi, et ils s'engageaient à vouloir changer, à se repentir. Donc, c'est une repentance radicale. Donc, c'est quelque chose de différent. Mais c'est dans ce contexte-là où est-ce qu'il y avait cette dispute, cette discussion, que tout à coup est venue la question. La question a surgi. Mais qu'est-ce qu'il y en est de Jésus, lui? Et là, ça a sauté aux yeux que Jésus devenait de plus en plus populaire. Donc là, les disciples de Jean-Baptiste sont allés voir leur maître, Jean-Baptiste, et lui font la remarque, « Rabbi, celui qui était avec toi au-delà du Jourdain et à qui tu as rendu témoignage, Voici qu'il baptise lui aussi. Et tous vont à lui. Tous vont à lui, c'est une exagération, mais c'est voulu. C'est une manière de dire, il est en train de devenir plus populaire que toi. Il est en train de te détrôner. Qu'est-ce que tu penses de ça? Mais Jean leur donne une réponse assez détaillée, mais on pourrait résumer ça en québécois, c'est correct. Les gens qui viennent d'Afrique, ils trouvent ça drôle que les Québécois disent ça, c'est correct. Ça veut dire c'est normal, ça va, il n'y a pas de problème. Jean, c'est correct que Jésus, son ministère croisse. Et la première chose qu'il leur dit, c'est « Un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. » C'est-à-dire tout ministère auquel les hommes sont appelés à participer est donné de Dieu. Et c'est aussi lui, Dieu, qui donne les capacités pour l'accomplir, ce ministère. Ça vient de Dieu, tout vient de Dieu. Donc, on ne devrait jamais s'en vanter ou se comparer aux autres dans un esprit de rivalité, de jalousie. L'apôtre Paul va dire la même chose dans 1 Corinthiens 4, un passage que vous connaissez peut-être. Paul, il leur rappelle parce que les Corinthiens, justement, ils étaient pris dans le piège de la comparaison, la rivalité. Il y avait comme des clans dans l'Église qui se battaient pour savoir qui était le meilleur. Et Paul leur dit, « Qu'est-ce qui te distingue? Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi te glorifies-tu comme si tu ne l'avais pas reçu? » C'est un rappel pour les Corinthiens, c'est un bon rappel pour nous aussi. Qu'est-ce qu'on a qu'on n'a pas reçu de Dieu? Et si on est d'accord qu'on l'a reçu de Dieu, pourquoi on s'en glorifierait? Pourquoi on se penserait meilleur que les autres pour ce qu'on a, pour qui on est? Même nos capacités pour accomplir les ministères dans l'Église viennent de Dieu. Des belles qualités là, qui servent à l'Église, d'être, par exemple, d'être travaillant, d'être organisé, d'être discipliné. Il y en a qui sont plus disciplinés que d'autres. D'être persévérant. Il y en a qui peuvent accomplir une tâche ponctuelle, mais il y en a d'autres qui sont capables de persévérer dans une tâche semaine après semaine, mois après mois, année après année. Cette persévérance-là, c'est une qualité. J'ai perdu l'endroit. OK. Une autre qualité, la flexibilité, de pouvoir s'ajuster, s'adapter, l'intelligence. Tout cela provient de Dieu. Toutes nos qualités proviennent de Dieu. Donc, c'est comme Jean est en train de leur dire, ce que j'ai comme ministère, je l'ai reçu de Dieu. Et ce que Jésus a comme ministère, il l'a reçu de Dieu. Ensuite, il leur rappelle, je vous ai déjà dit que je ne suis pas le Christ. Vous en êtes témoin. Rappelez-vous, là, je vous l'ai dit, je ne suis pas le Christ. J'ai été envoyé devant lui pour le précéder. Et on l'a déjà vu dans les études précédentes que Jean-Baptiste avait reçu la mission de préparer la venue du Seigneur, de préparer la venue du Christ. Donc, c'était un mandat qui était d'une durée limitée. C'est pour préparer la venue du roi, comme on l'a chanté tantôt. Et selon le plan de Dieu qui était déjà annoncé dans l'Ancien Testament, on lit dans Malachie chapitre 3, « Voici que j'enverrai mon messager, il ouvrira un chemin devant moi. » Et soudain entrera dans son temple le Seigneur que vous cherchez, le messager de l'Alliance que vous désirez. Voici qu'il vient, dit l'Éternel des armées. Et cette préparation-là, c'était quoi? C'était une préparation des cœurs, que les gens se repentent et qu'ils prennent conscience que pour ne pas retomber dans la vie de péché, ils ont besoin d'être sauvés. Donc, ils préparaient le cœur des gens en les amenant à la repentance pour qu'ils cherchent le Sauveur, qui est Jésus, et soit sauvé. Malachie 3, 24 dit, « Il ramènera le cœur des pères à leurs fils, le cœur des fils à leurs pères, de peur que je ne vienne frapper le pays interdit. » Donc, c'était un ministère très important, celui de Jean-Baptiste. Mais bien entendu, quand le Christ est venu, le ministère du Christ était de loin plus important. Le Seigneur est arrivé, son ministère est de la plus haute importance. Ensuite, Jean-Baptiste utilise l'illustration d'un mariage, un jour de noces. Le jour des noces, à part la mariée, bien sûr, la personne la plus importante, c'est le marié, c'est l'époux. Même le garçon d'honneur, parmi tous les invités, Celui qu'on appelle le garçon d'honneur, qui va faire parfois un discours, là. Il est comme le plus important, il s'assoit à côté du marié. Même lui n'est pas aussi important que l'épouse. Il est, à l'époque, ils appelaient ça l'ami de l'époux. Mais ça n'enlève pas sa joie d'être là. Il n'est pas fâché comme un enfant qui n'est pas content parce que c'est pour son anniversaire et il ne peut pas avoir les cadeaux comme son ami. Il est heureux pour son ami. Je ne sais pas si vous avez déjà été un garçon d'honneur, best man. Ben, moi, je ne l'ai pas encore été, mais on peut s'imaginer la joie. Quand c'est vraiment notre meilleur ami qui se marie, on est content pour lui. On n'est pas jaloux. Parce qu'on ne devrait pas l'être. Et juste de voir le marié être heureux, rentrer, ou comme dit Jean-Baptiste ici, d'entendre la voix de l'époux, déjà, ça nous rend joyeux, ça rend heureux, ça remplit de joie. Et Jean-Baptiste est en train de dire à ses disciples, « Moi, je suis comme le garçon d'honneur le jour des noces. » C'est vrai que mon ministère est un grand honneur, mais c'est pas moi l'époux, là, à cette journée-là. Et juste d'entendre la voix de l'époux, qui est Christ, ma joie est complète. Ou dans d'autres versions, c'est ma joie est parfaite. Ma joie est à son comble. Je suis rempli de joie. Et ce thème-là d'être rempli de joie, ça revient plusieurs fois dans l'Évangile de Jean. Et par la bouche de Jésus lui-même. Jésus dit à la fin de son ministère sur la terre, peu de temps avant de mourir, alors qu'il est avec ses disciples, dans Jean 15, il dit, « Je vous ai parlé ainsi, afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit complète ou parfaite. » Et même quand il prie son Père à la veille de sa mort, et qu'il demande que Dieu prenne soin là, de ses brebis, lui, il n'en a perdu aucune, mais là, il les remet dans les soins de son Père. Il prie pour eux, il prie pour nous. Il dit, « Maintenant, je vais à toi et je parle ici dans le monde afin qu'ils aient en eux ma joie parfaite. » Les disciples de Jean étaient nés juifs, donc ils connaissaient bien l'Ancien Testament. Et je pense que ce n'est pas un hasard si Jean-Baptiste utilise comme illustration un mariage. Parce que c'est une illustration, une analogie qui est déjà utilisée dans l'Ancien Testament. Vous savez peut-être dans quel contexte. C'est pour parler de la relation entre Dieu et le peuple d'Israël. Dieu utilise l'analogie du mariage pour symboliser, pour montrer le lien fort là, qui unit Dieu au peuple d'Israël. Dieu se présente comme l'époux. Il dit dans Ésaïe 54, « Celui qui t'a fait, il parle à Israël, est ton époux. L'Éternel des armées est son nom. » Dans Ésaïe 62, il dit, « Comme la fiancée fait la joie de son fiancé, ainsi tu feras la joie de ton Dieu. » Dans Jérémie 2:2, « Va et crie aux oreilles des gens de Jérusalem, ainsi parle l'Éternel, je me souviens de ton amour de jeune fille, de ton affection de fiancée, quand tu me suivais au désert, dans une terre stérile. » Quand Dieu marchait devant le peuple, Dieu s'en souvient, c'est comme sa fiancée, puis c'est les beaux jours du début de la vie de couple. Dans Osée 2, Dieu annonce que ça va revenir. Osée 2, 21, « Je te fiancerai à moi pour toujours. Je te fiancerai à moi avec justice et droit, loyauté et compassion. Je te fiancerai à moi avec fidélité et tu reconnaîtras l'Éternel. » Tu vas vraiment me connaître. Donc, c'est tellement présent dans l'Ancien Testament que je pense que les disciples de Jean-Baptiste ont compris qu'il faisait allusion à ça. En tout cas, les probabilités sont fortes. Surtout quand on connaît la suite. On comprend dans le Nouveau Testament que l'époux, c'est Christ, et l'épouse, c'est son Église. Nous formons l'épouse de Christ, nous sommes fiancés à notre fiancé Christ, et on attend le jour des noces. On va tous se réjouir. Donc, peut-être que Jean-Baptiste ne le connaissait pas encore, ce lien-là, dans le Nouveau Testament. Mais ça va devenir si fort là, que ça va être évident pour tous. Et, Paul en parle dans 2 Corinthiens 11. Paul, il parle aux Corinthiens qui s'étaient convertis. Il dit, « Je vous ai fiancé à un seul époux pour vous présenter au Christ comme une vierge pure. » Dans Éphésiens 5, où Paul donne des commandements à l'homme et la femme dans le couple, il rappelle que ce lien-là sert à représenter le lien entre Christ et son Église. Marie, aimez chacun votre femme comme le Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle afin de la sanctifier après l'avoir purifiée par l'eau et la parole pour faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et sans défaut. Et dans l'Apocalypse, même le dernier chapitre de la Bible, nous disons au Seigneur Jésus, reviens bientôt, et c'est en tant qu'épouse que nous le disons. Nous demandons à notre fiancé qu'il vienne nous chercher. Apocalypse 22, 17, l'Esprit et l'épouse disent, viens. Donc le lien est très fort entre Jésus et l'Église. Jean-Baptiste ne connaissait pas peut-être encore ce lien-là qui allait devenir, mais lui était déjà très heureux d'avoir fait son travail, un travail que Dieu lui avait confié. Il était dans la joie d'avoir accompli son ministère. Et il conclut au verset 30, « Il faut qu'il croisse et que je diminue. » C'est touchant, cette parole. Et ça demande vraiment son humilité. Les grands de ce monde n'ont pas tendance à dire ça. Ils veulent plutôt grandir et que les autres diminuent. Mais Jean-Baptiste, même quand il dit « il faut qu'il croisse », les mots « il faut » dans le Nouveau Testament, dans les Évangiles, presque toujours ça fait référence à la volonté de Dieu, au plan de Dieu. Il faut que ça arrive comme ça parce que c'est Dieu qui a décidé. Dieu a décidé que le ministère de Jésus allait croître et que le mien allait diminuer. Et Jésus va dire de Jean-Baptiste, parce qu'il est évident quand il prononce ces paroles-là, qu'il est très humble. Et l'humilité, c'est la vraie grandeur, selon Dieu. Et Jésus va dire dans dans Luc 7, « Je vous le dis, parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'y en a pas de plus grand que Jean. » Et c'est sans doute à cause, en partie, de son humilité. L'humilité qui était requise pour pouvoir faire une si grande tâche. Dans Matthieu 23, 11, Jésus confirme que le plus grand parmi vous sera votre serviteur. Pas celui qui veut être le dirigeant et qui réussit à imposer son autorité. Celui qui va servir humblement ses frères va être le plus grand. C'est comme l'ordre inversé. Donc, l'humilité de Jean ici est un bon modèle à suivre. Et quand il dit « il faut », c'est ça, il se réfère au plan de Dieu. Donc, Jean était conscient que c'était le plan de Dieu, que son ministère s'efface pour faire place au ministère de Jésus. C'est le ministère de Jésus qui dure aujourd'hui. Personne ne va se faire baptiser au nom de Jean-Baptiste. C'est terminé. C'est la même chose pour chacun de nos ministères aussi. Dieu nous fait un immense honneur de nous permettre de le servir d'une façon ou d'une autre. Des fois, c'est une manière officielle ou non officielle. Mais souvenons-nous que tous nos ministères, tous nos services, en fait, servent le ministère de Jésus. Ou devraient, en tout cas, servir le ministère de Jésus. C'est lui que nous voulons voir élevé. Pour rendre toute la gloire à Dieu. C'est pour ça que ça ne fait aucun sens de nous comparer, d'entrer dans une compétition, de rivaliser, d'être jaloux. Quand on fait ça, quand on réfléchit comme ça, on a perdu de vue qu'on est tous supposés d'être en train de servir Christ. C'est le ministère de Christ. C'est lui qui bâtit son Église. Paul, il reprend sévèrement les Corinthiens. Il dit, quand l'un dit, « Moi, je suis de Paul », et un autre, « Moi, d'Apollos », il leur rappelle, « N'êtes-vous pas des hommes? » Qu'est-ce donc qu'Apollos? Qu'est-ce que Paul? Des serviteurs par le moyen desquels vous avez cru, selon ce que le Seigneur a donné à chacun. C'est venu d'en haut. J'ai planté, Apollos a arrosé, mais Dieu a fait croître. Ainsi, ce n'est pas celui qui plante qui est quelque chose, ni celui qui arrose, mais Dieu qui fait croître. Celui qui plante et celui qui arrose ne font qu'un. Chacun recevra sa propre récompense selon son labeur. Et ici, l'apôtre Jean, l'auteur du texte, ajoute ensuite un commentaire. Au verset suivant, je pense que ce n'est pas Jean-Baptiste qui continue de parler, je pense que c'est l'auteur du texte qui rajoute un commentaire. Bon, peut-être Et vous pensez que c'est Jean-Baptiste, c'est correct, de toute façon. Le texte est inspiré de Dieu. Mais lisons la suite, Jean 3, verset 31. Donc, toujours dans le même texte, verset 31. « Celui qui vient d'en haut est au-dessus de tous. Celui qui est de la terre est de la terre. Et il parle comme étant de la terre. Celui qui vient du ciel est au-dessus de tous. Il rend témoignage de ce qu'il a vu et entendu. » Et personne ne reçoit son témoignage. Et celui qui a reçu son témoignage a certifié que Dieu est vrai. Pardon. Car celui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu. Parce que Dieu donne l'Esprit sans mesure. Le Père aime le Fils et il a tout remis dans sa main. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne se confie pas au Fils ne verra pas la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Donc, après avoir comparé le ministère de Jésus et celui de Jean-Baptiste, là, le texte montre que le ministère de Jésus est plus grand, finalement, que tout autre. Jésus est plus grand que toute personne. Donc, pourquoi le ministère de Jésus est plus grand? Parce que Jésus est celui qui vient d'en haut. Ce n'est pas un ministère terrestre auquel Dieu confie une mission et qui donne des capacités. C'est un ministère qui vient vraiment d'en haut. Jésus est venu du ciel. D'en haut, c'est intéressant, c'est le même mot qui est utilisé, parce que c'est un mot en grec, là, d'en haut. C'est le même mot qui est utilisé juste un peu plus haut dans le même chapitre où Jésus dit qu'il faut naître de nouveau. Il faut naître d'en haut. Il faut naître du ciel. Donc, Jésus est venu de là, là. De où les chrétiens, lorsqu'ils sont sauvés, naissent de nouveau dans ce monde spirituel céleste. Jésus vient de là. Donc, Jésus n'est pas simplement né sur la terre. Il est venu naître sur la terre. Il existait avant, depuis toute éternité, en tant que Fils de Dieu, Dieu le Fils, dans ce monde céleste. Il est descendu sur terre. Donc, parce qu'il vient d'en haut, il est forcément au-dessus de toute créature, de tout homme, de tout être. Au-dessus de tous les chefs spirituels qu'on pourrait avoir sur la terre, au-dessus de tous les prophètes, de tous les apôtres, au-dessus de tous les pasteurs, de tous les évangélistes, parce qu'ils sont tous de la terre, sur la terre. D'ailleurs, le message que Jésus apporte est différent. Si on compare le message de Jésus à n'importe quel autre enseignant religieux, son message est différent parce qu'il il témoigne de réalités célestes qu'il connaît. Il les a vues. Il en parle comme un témoin. Il a vu ces choses. C'est là qu'il habitait. Il parle de sa demeure. Quand il parle du royaume de Dieu, c'est de là d'où il vient. Mais, ici Jean ajoute, c'est pourquoi que le monde en général ne le reçoit pas. Ce n'est pas ce qu'on veut entendre. On ne veut pas entendre nous faire parler d'un autre monde qu'on ne comprend pas, qui est étranger et qui nous demande de changer. Comme dans l'introduction de l'Évangile de Jean, on lisait, le monde est comme dans les ténèbres et la lumière est venue, puis les ténèbres n'en ont pas voulu. C'est un peu comme si vous et moi, on vivait dans un monde en noir et blanc. Et tout ce qu'on connaît, c'est noir et blanc, puis quelqu'un vient nous parler d'un autre monde en couleur. Probablement qu'on n'en voudrait pas. De quoi il parle? C'est quoi cette folie? Mais celui qui porte attention et qui y croit, là, il s'en trouve changé. Celui qui reçoit le témoignage de Jésus, même par le simple fait qu'il reçoit le témoignage de Jésus, il certifie que Dieu est vrai. Recevoir le témoignage de Jésus, c'est de certifier, c'est de déclarer, de confesser, Dieu est véritablement vrai. Parce que le message que Jésus nous apporte vient de Dieu. Le message est la parole de Dieu. Donc, celui qui dit croire en Jésus, si vraiment il croit en Jésus, il doit croire qu'il vient apporter réellement le message de Dieu, même plus précis que ça, que Jésus est lui-même la parole de Dieu faite chair, qu'il a vraiment agi de la part de Dieu. Celui qui reçoit le témoignage de Jésus certifie que Dieu est vrai, et que Jésus a réellement agi sous la direction du Saint-Esprit. Comme il l'a dit, qu'il n'agissait pas simplement par la force humaine, qu'il était guidé, dirigé par le Saint-Esprit, que tout ce qu'il faisait, tout ce qu'il disait, était selon la volonté de Dieu. L'Esprit, le texte dit que l'Esprit de Dieu lui a été donné sans mesure, c'est-à-dire sans limite. Le Saint-Esprit, qui est venu sous la forme d'une colombe sur Jésus, a demeuré sur lui et l'a rendu, avec la puissance divine, sans limite. Il avait déjà la puissance divine avant de venir sur terre, mais il s'est humilié pour venir en tant qu'homme. Mais là, dirigé par l'Esprit, il a eu l'Esprit sans mesure et son ministère n'a pas de fin, il est éternel. C'est pour ça que de ne pas accepter Jésus, ne pas accepter le fait que Jésus était guidé par le Saint-Esprit, c'est un blasphème contre le Saint-Esprit. C'est ce que d'autres évangélistes vont dire. Le blasphème du Saint-Esprit, c'est le seul péché qui ne peut pas être pardonné. Le péché impardonnable de rejeter Christ, de ne pas croire que Christ était réellement animé du Saint-Esprit, qu'il venait réellement de Dieu, c'est le seul péché qui ne sera pas pardonné. Tout dépend de si on met notre foi en Jésus. Si on croit en Jésus, tout péché sera pardonné. Mais rejeter Christ comme étant la parole de Dieu animée du Saint-Esprit fait en sorte que la colère demeure. La colère de Dieu reste sur lui. Et on comprend pourquoi. Le texte ajoute que Jésus qui est venu, c'est le Fils bien-aimé de Dieu. Le Père a aimé le Fils. Et c'est pour ça qu'il a tout mis dans ses mains. C'est la prunelle de ses yeux. C'est son Fils unique, son bien-aimé. Donc si on le rejette, c'est normal que Dieu reste en colère contre nous. Et celui qui reste sous la colère de Dieu, après sa vie sur terre, après la mort, il n'aura pas accès à la vie. Des fois, on se fait croire, là, dans des funérailles, des gens qui ne sont pas croyants, puis ils vont prier pour que le défunt puisse trouver sa route vers Dieu. Mais désolé, mais s'il n'a pas cru en Jésus, il ne la trouvera pas, la route vers Dieu. La vie ne lui sera pas accordée. Tout homme, ultimement, sa destinée dépend de s'il a mis sa foi en Jésus pendant la période de temps qu'il lui a été accordé de vivre sur terre. Celui qui croit en Jésus, qui croit qu'il est le Fils de Dieu venu d'en haut pour nous sauver, et qui met sa confiance dans cela, lui, il va vivre après la mort, éternellement. Et la mort devient une simple étape pour un état meilleur. C'est même avantageux de mourir pour le croyant. Après sa mort, il va vivre dans le royaume des cieux, dans le royaume de Dieu pour l'éternité. C'est tellement vrai que le texte dit, celui qui croit au Fils, le texte dit pas, celui qui croit au Fils aura la vie éternelle. Il parle au présent. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. C'est une certitude absolue. Il ne la perdra pas, sa vie. Il est né de nouveau. Il est né d'en haut. Il existe déjà dans le monde céleste. Celui qui croit a la vie éternelle. Donc, si nous croyons, nous avons déjà la vie éternelle et la mort n'est qu'une étape. Comme dans plusieurs passages du Nouveau Testament, n'est qu'un sommeil temporaire. Un jour, nous ressusciterons pour être tous ensemble dans les cieux, sur la nouvelle terre. Donc, en conclusion, premièrement, on a vu que le ministère de Jésus surpasse celui de Jean-Baptiste. Et par le fait même, il surpasse tout ce qui était inclus dans l'Ancien Testament. Il est finalement la conclusion de tout. Jean-Baptiste est venu comme, on peut dire, l'avant-dernière étape là, de cette histoire, de ce récit-là, pour nous conduire à Christ qui est l'aboutissement, la conclusion, le clou. Donc, le ministère de Jésus surpasse tout rite de purification que Jean-Baptiste pourrait présenter et tout rite de purification qu'on pourrait imaginer aujourd'hui pour essayer de faire pénitence ou de se purifier. C'est Jésus là, qui est la seule purification, la seule source de purification. Il baptise du Saint-Esprit, il purifie des péchés, il nous purifie complètement. Il va mal finir, mais c'est pas grave, il était dans la joie jusqu'à la fin, rempli de joie d'avoir accompli son ministère et de voir Christ être élevé. Et deuxièmement, on a vu que Jésus ne surpasse pas seulement Jean-Baptiste, mais il surpasse tout être. Il est le Tout-Puissant. Parce qu'il est Dieu le Fils venu du ciel et maintenant retourné au ciel, et il règne, tout pouvoir lui a été donné par Dieu le Père. Il a toute autorité. Et la vie éternelle ne s'obtient que par lui. C'est par lui que tout être va être jugé. Tous les ministères, finalement, qui sont vraiment chrétiens et qui concernent d'une manière ou d'une autre l'évangélisation ou l'édification de l'Église, bien, sont des ministères en Christ, sont des extensions du ministère de Christ. Tout s'intègre dans le ministère de Jésus, qui est en train de bâtir son Église et qui prépare sa fiancée pour le jour des noces. Donc, si nous restons conscients de cela, bien, nous pourrons servir dans l'Église avec humilité. L'humilité qui veut que ce soit Christ qui soit élevé par nos vies, par notre service. Donc, parfois, il faut nous repentir de notre orgueil. C'est peut-être votre cas présentement. Et pour ça, on peut utiliser les mots de Jean. Il faut qu'il croisse et que je diminue. Mais contrairement à ce qu'on pourrait penser, quand on s'humilie, ça ne rend pas malheureux. Ça ne rend pas triste. Ça rend joyeux. C'est une véritable joie. Quand on renonce à la reconnaissance personnelle, puis on pense qu'on va être triste parce qu'on renonce à quelque chose de précieux, bien, on devient heureux. Ça procure une vraie joie, une joie complète, une joie parfaite. C'est la joie que Christ nous a promis. Donc, faites le test de mettre Dieu à l'épreuve dans ses paroles, puis vous allez voir que c'est vrai. Amen.